Chapitre 12. André et Jeanne se traitaient de gueulards maintenant. Ils s'étonnaient de cette gourmandise qui leur était soudain née. Chacun reprochait à l'autre de lui inculquer ses défauts et ses vices. Il y avait là un fait curieux. L'éclosion inattendue d'un sens nouveau chez Jeanne, qui, mangeant d'ordinaire et sans répugnance dans des gargotes à 22 sous, ne pouvait être raisonnablement traitée de gourmette et de goinfre, et le mépris de tout un passé d'indifférence culinaire chez André, qui menait sa maîtresse dans les brasseries où jamais il ne serait attablé seul, et achetait aujourd'hui, chez les marchands rencontrés sur la route, des primeurs, des fruits, se disant « Tiens, nous dégusterons cela ce soir au dîner avec Jeanne ». Ce vice atteignit Mélanie, carambola jusque dans son ménage. À force de combiner de savantes cuisines, elle devint porter sur sa bouche et son mari, qui s'intéressait, et pour cause, au repas d'André, invita sa femme à soigner davantage encore les plats, à perfectionner surtout ce qu'il préférait. « Hé, monsieur Denis !» cria Jeanne un soir qu'étendu dans le lit, il cessait de bavarder sans même songer à se bécoter ou à s'étreindre. André, qui s'endormait, leva le nez sur la couverture. « Eh bien quoi » fit-il. Elle reprit. « Dis donc, tu sais, nous pouvons commencer à répéter le refrain de la chanson. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en. Car vois-tu, quand on jouit à s'emplir ainsi le ventre, c'est la fin des bonnes nuits où l'on ne dort pas. » Elle avait raison. La gourmandise s'était introduite chez eux comme un nouvel intérêt, amené par l'incuriosité grandissante de leur sens, comme une passion de prêtre qui, privé de joie charnelle, hennissent devant des mets délicats et de vieux vins. Le renouveau de leurs amours étant épuisé, André et Jeanne n'eurent bientôt plus que de béates tendresses, de maternelles satisfactions à coucher quelquefois ensemble, à s'allonger simplement pour être l'un près de l'autre, pour causer avant de se camper dos à dos et de dormir. Ils goûtèrent alors ces bonheurs monotones des vieux ménages rompu par les inévitables et faibles querelles, nées d'un ronflement continu ou d'une bousculade maladroite des corps pendant la nuit. Dans cette existence tranquillisée, dans cette tiédeur de ménage vivant au milieu de Paris ainsi que dans une province, André se plongeait comme en un bain sédatif et apaisant. Les caresses de Jeanne fermaient les blessures ouvertes par les trahisons de Berthe, et à peine passé par la bonne Franquette de Blanche. Pour la première fois, peut-être, depuis sa rupture avec sa femme, il pouvait songer à elle sans angoisse, sans regret. « C'est trop bien arrangé pour que ça dure », se disait-il, surpris que tous ses souhaits se fussent si facilement exaucés, car le concierge, tant redouté, continuait à garder une attitude pacifique, et Mélanie persistait à être prévenante. « Bon, ça va se détraquer. » Et en effet, surgit peu à peu une question. Jeanne et lui avaient toujours écarté d'un commun accord la question de l'entretien payé par un autre monsieur d'un bout de la France à l'autre. Il ne fut pas tout d'abord parlé de ce jeune Béjaune, mais bien de son frère aîné, M. Auguste Vidouvet, ancien négociant en meubles, un homme d'une quarantaine d'années, célibataire et riche, qui devint l'amant de la veuve Lavaux grâce à quelques bouteilles de champagne un soir. L'ivresse de cette veuve fut désastreuse pour le ménage d'André, car ce monsieur jugea nécessaire de veiller sur les bonnes mœurs de sa fausse belle-sœur. Alors eut lieu, certains jours, des courses folles au travers de Paris. Jeanne montait dans des tramways, suivie par l'ancien négociant, descendait de la voiture dans une rue de Montmartre où demeurait sa mère, grimpait deux étages, attendait longtemps sur un palier, surveillant la rue par une fenêtre, et quand elle ne voyait plus cet imbécile en sentinelle sur le trottoir, elle descendait comme un tourbillon, s'élançait dans un autre tramway, filait par des embranchements de lignes, arrivée par des correspondances d'omnibus chez André, morte de faim et de froid, suffoquée, riante, cria « Ah, bien, ben, j'en ai eu du mal !» L'affection filiale de Jeanne excusa certaines rentrées tardives le matin chez elle, mais le monsieur se défia, et comme il avait peu pratiqué les femmes, il s'imposa la tâche de la visiter tous les jours de très bonne heure, déclarant qu'il n'admettait pas en principe l'habituel prétexte de sortie, les bains. Alors, tout en dressant de nouvelles batteries, Jeanne n'osa plus découcher. Traquée à la porte de son magasin par cet homme qui l'épiait, pensant n'être pas vue, elle le dépistait dans des embarras de voiture et de foule, accourait chez André, et par haine de ses difficultés, par représailles, ils se jetaient les sens bruyamment levés, l'un sur l'autre, et se culbutaient à la volée sur le tapis et sur les chaises, puis Jeanne repartait vite et rentrait chez elle, écoutait le monsieur lui dire d'un ton convaincu « Vous savez, ma petite, vous faites bien de ne pas courir, car voyez-vous, c'est pas un vieux sage comme moi qu'on rencontrait. » Il fit si bien que, tandis qu'il surveillait la femme de son frère, la sienne, Eugénie, femme modérée pourtant, laquelle, par une heureuse exception, il avait placé toute sa confiance, s'attardait pour venger Jeanne chez chaque locataire de la maison. « Une de plus !» disait-elle lorsqu'il rentrait. « Une de quoi ? » demandait-il. « Tiens, pardi, tu comprends bien ?» Et elle dressait en goguenardant deux doigts en l'air. Il haussait les épaules, pensant qu'elle n'oserait pas, si elle disait vrai, avouer aussi simplement la chose. Toutes ces histoires ne déridèrent pas André, qui se désola de tous les obstacles apportés par cette liaison. Bientôt, il appréhenda des embarras plus graves. Jeanne semblait avoir perdu toute gaieté. Il la pressa de questions. Elle répondit vaguement, continuant à se plaindre seulement de l'amant d'Eugénie, répétant que c'était un vilain homme, un malade imaginaire et noceur, pas élevé et exigeant néanmoins un langage correct et choisi de la part de sa maîtresse, qui s'entêtait, ripostant à ses objurgations furibondes. « Tiens, pourquoi donc on dirait pas un omnibus, puisqu'on dit bien une voiture ?»« Oh, tu sais, il lui fiche des claques quand elle lui répond, » ajouta Jeanne. « Ah, bien moi, il pourrait me donner encore plus d'argent qu'il m'en donne à Eugénie, que je ne resterai pas avec lui pour sûr. » Les cuirs lâchés et les gifles reçus par Eugénie ne parurent pas suffisantes à André pour justifier la tristesse de Jeanne. Il l'accusa de ne plus l'aimer. Mais cette invite, généralement suivie de protestations et de bavardages, n'eut aucun succès. Jeanne l'embrassa tendrement pour toute réponse, et gardant encore le silence sur ses propres affaires, revint à sa camarade, racontant qu'Eugénie avait des cuirs dans le sang, qu'il était bien à craindre enfin que l'art de l'insulter et le monsieur ne cessât de l'entretenir. Ces détails sur le malheureux sort de la veuve Lavaux commencèrent à exaspérer André. Il trouva que le monsieur ne la cognait pas suffisamment, et comme il chantonnait maintenant quand Jeanne narrait les méfaits de cet homme, la petite ne causa plus. Lasse de remâcher les ennuis, toute seule, elle finit un soir pourtant par parler d'elle-même. « Tu veux le savoir, » fit-elle bien, « le volontariat va se terminer et mon amant revient, là. » André ne broncha pas. Elle entra dans des explications. Son amant était un gommeux, fier comme un artaban de ses hauts cols, un bel âtre avec du bleu dans l'âme, pas méchant et grossier comme son frère, mais maladroit et incapable de comprendre une femme et de la recréer au lit ou debout. « Un vrai gosse, » dit-elle, résumant sa pensée en un mot. Et elle poursuivit, « Oui, Il va revenir, mais ce qui est moins drôle, c'est qu'aussitôt de retour à Paris, il s'associe avec un banquier et se marie. Et elle ajouta plus bas, « Je sais vraiment pas comment je ferai maintenant pour vivre. » André baissa le nez et il se tut accablé, car il ne pouvait, avec la meilleure volonté du monde, entretenir Jeanne. Il ne gagnait pas un sou avec sa plume, et Mélanie dévorait, en carottage et en cuisine, ses maigres rentes. Plusieurs fois déjà, il était demeuré sans le sou, aux approches du terme. Les quelques avances d'argent qu'il possédait au moment de sa rupture avec Berthe avaient été mangées en dépenses de meubles et de linge, en frais de déménagement et d'installation. Actuellement, c'était dans sa maison une véritable gabegie, un vrai pillage. Chacun tirait à soi, et le plus âpre encore était le mari de la bonne, qui emportait les gilets, les chaussettes, dévorait des argents, fou en achetant de l'eau seconde et de cire, aidait à vider les bouteilles de vin et empêchait l'eau-de-vie de vieillir dans les armoires. Tous les matins, Mélanie réclamait 20 francs. André se cabrait, déclarait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi, qu'elle devrait n'importe comment restreindre le marché de son ménage. Et elle, de son côté, répondait que c'était impossible, que la vie était hors de prix, qu'elle dirigeait la maison au meilleur compte. Il n'y avait plus qu'à se taire ou à congédier la bonne. Forcément, ils la gardèrent, redoutant la débâcle de son existence. Toutes ces raisons qu'André débita à Jeanne pour s'excuser de sa réelle impuissance à l'assister ne produisirent aucun effet. Mais renvoie Mélanie, qui te vole comme dans un bois, dit-elle. Et légèrement, petit à petit, elle insinua, comme jadis, qu'ils pourraient vivre plus économiquement en se mettant en ménage ensemble. Cette suggestion consterna André. Il chercha à gagner du temps, opposant à ses attaques la force d'inertie, bien résolu dans tous les cas à ne pas concubiner avec Jeanne et à ne pas congédier sa bonne. Une ou deux discrètes tentatives furent encore osées par Jeanne. Certains soirs. Puis bien qu'elle eût annoncé gravement une fois que, le mariage de son amant étant dès à présent consommé, elle pourrait revenir comme autrefois coucher, elle évita de reparler de vie commune et laissa de côté ses mines longues. André s'applaudit de ce changement et reprit confiance. Il arrangea par prudence ses affaires, vendit quelques obligations et distribua de temps à autre, à des distances préalablement calculées, un peu d'argent à Jeanne. Un ou 2 mois s'écoulèrent. Février touchait à sa fin. Complètement remis de ses alarmes, se croyant sauvé, André respirait quand un jour, Jeanne, un peu pâlotte, déclara que sa situation allait changer. André s'effara devant cette phrase qui retentit à ses oreilles comme une menace. Il baissa la tête, s'attendant à tout. Elle chercha ses mots. Oui, vois-tu, je n'avais pas le choix. J'ai dû accepter. Enfin voilà, je pars le mois prochain pour l'Angleterre. Il fut terrassé, et après un silence, tandis qu'elle s'approchait de lui, il se remit un peu, la regarda tristement dans les yeux, et fit d'une voix tremblante: Alors, tu me lâches? Elle se récria: Oh, que c'est méchant de dire des choses pareilles! Non, tu seras toujours mon petit homme, comment peux-tu croire que je ne t'aime plus? Seulement, tu devrais comprendre qu'une femme ne peut vivre avec l'air du temps. Mon Dieu, tu as fait tout ce qui était possible, je le sais, et je ne te reproche rien. Mais maintenant que les magasins chôment, que je ne parviens même plus à gagner ma nourriture. Je traînerai la misère à Paris. Voyons, aimerais-tu mieux que je fasse des bêtises, que j'aille avec l'un et avec l'autre ? Il hocha la tête, soupirant, s'avouant très bas que peut-être il eût préféré que Jeanne n'ossât, sans rien lui dire, plutôt que de l'abandonner brutalement ainsi. Elle prit son soupir pour un symptôme du désespoir qu'il éprouvait à la pensée que sa petite Jeanne pourrait appartenir au public, au premier venu. Elle soupira à son tour, puis déplora, soucieuse, les périls de la traversée, les douleurs du mal de mer, la tristesse d'un pays dont on ne connaît pas la langue. Ensuite, elle embrassa André sur les yeux, murmurant « Ne te désole pas, mon petit homme, bah, je reviendrai, ce sera pas bien long. » Il ne répondait pas. Alors elle reprit, très douce, « Voyons, ne sais pas comme cela, parle-moi. Je ne suis pas bien heureuse non plus, tu vois bien. Tu n'es pas fâchée contre moi, dis. » Il eut un geste vague. Elle le baisa sur la bouche et sourit un peu. « Tiens, voilà, il y a un mois déjà que j'ai signé mon engagement. Oh, je savais bien que cela te peinerait. Ainsi, je ne pouvais pas me décider à te l'apprendre. » Je suis allé rue Richelieu, à l'agence de Mademoiselle Tricot, où une grosse maman très farce, qui a des lunettes rondes sur le nez et des boudins à la reine Amélie le long des joues. Elle s'est procuré des renseignements dans des maisons où j'ai travaillé, et elle m'a fait signer un contrat de 3 mois. Oh, c'est une brave femme, qui a la spécialité d'exporter les ouvrières, et qui est professeure de natation pour dames, quand ces marchés sont conclus l'été. » Et Jeanne se mit à rire, espérant qu'André se dériderait aussi, mais le portrait de Mademoiselle Tricot ne le toucha guère, et mal disposé pour cette négociante qui expédiait sa maîtresse au loin, il s'acharna au contraire sur l'agence qu'elle dirigeait, déclarant que c'était une boîte à filou, un rendez-vous d'entremetteuse, affirmant, sans preuve du reste, que Jeanne s'était fait voler. Mais la petite secouait la tête, soutenant qu'elle ne risquait rien, expliquant la marge de ces sortes d'affaires, répétant « Les conditions sont celles-ci. Je suis engagé à 140 francs par mois, plus la nourriture, le logement, un lit pour 2 ouvrières, par exemple. Quant aux frais de courtage, ils sont à la charge de la maison de Londres, qui paye également l'aller du voyage. » André ne fut nullement convaincu, et il attaqua furieusement la qualité de la nourriture qu'on servirait à Jeanne, exprima le dégoût qu'elle ressentirait à coucher avec une autre. « Enfin, reprit Jeanne, en admettant même que tu aies raison, je ne peux plus me dédire. Mon contrat est signé et j'aurai une grosse somme à payer si je ne partais pas. » André n'insista plus. À dater de ce jour, Mélanie eut beau s'ingénier à façonner des chatteries et des petits plats, ce fut peine perdue. La gourmandise des temps heureux avait disparu. Éclose tout d'un coup, elle mourut de même. Une tristesse planait maintenant sur André et sur Jeanne. Cette réflexion « Nous n'avons plus que quelques jours à vivre ensemble » s'imposait à eux, ne les quittait plus. Les angoisses d'André devinrent même si despotiques qu'il espéra comme une délivrance le départ de Jeanne. Bien qu'il se ressassât les mêmes idées pendant des heures, il souffrait moins peut-être quand il était seul. La vue de Jeanne développait ses rancœurs et ses regrets, et la tristesse de chacun, augmentée de celle de l'autre, devenait pour tous les deux intolérable. Leurs rendez-vous s'espacèrent, heureusement bientôt, car Jeanne ne le visita plus que très irrégulièrement, occupée, disait-elle, par les préparatifs de son voyage. Il reçut une lettre, enfin, portant le timbre de Boulogne-sur-Mer. Jeanne n'avait pas eu le courage de l'embrasser avant son départ. « À quoi bon nous désoler ? » écrivait-elle. « Ce sera moins pénible ainsi. » Et elle ajoutait « Au moment où ma lettre arrivera, Je serai sur le paquebot en mer. André tomba dans un fauteuil. Alors c'était fini. Jeanne aussi le lâchait. Sa vie était complète maintenant. Elle pouvait se résumer de la sorte, avoir été bernée par ses maîtresses, coquifiée par sa femme et lâchée par Jeanne. Il sentait de la colère contre l'amant de la petite. Qu'elle niait! Je vous demande un peu. Ça avait à peine 22 ans et ça se mariait. Il avait donc bien hâte d'être si trompé, ou ce qui est pis sans doute de ne l'être pas, grâce seulement au désastre des couches et à toutes ces intimités spécialement inhérentes aux petites bourgeoises. Comme s'il n'aurait pas mieux valu qu'il restât avec Jeanne, qu'il continuât de posséder en elle une maîtresse docile, qu'enfin il ne désorganisait pas dans son propre intérêt le train-train des trois existences s'acheminant parallèlement heureuses. Au fond, j'ai tort, se dit-il. Ce n'est pas à ce monsieur que je puis en vouloir. C'est à moi-même, c'est à l'argent qui me manque. Jeanne ne serait pas à Londres si je l'avais aidée. Et il comprit presque l'ignominie de la foule, l'abjection de la société, buvant le nez dans la boue, à plat ventre l'ordure, sacrifiant l'amitié, les convictions, tout à cet argent qui rend impeccable et grandiose, qui domine les tribunaux méprisés et les bagnes, qui fournit à tout particulier, au choix, les joies considérées de la famille ou les noces enviées des riches. Aussi pourquoi n'en gagnait-il point? Pourquoi avait-il toujours exercé des états stériles, des professions improductives comme celles de répétiteur et d'homme de lettres? Pourquoi n'avait-il pas accepté les basses besognes de son métier? Ne s'était-il point fait sérieusement journaliste? Il avait pourtant connu des gens qui cousaient bout à bout des balivernes évaluées avec raison au poids de l'or. Car toutes les nuits, la gomme les répétait stupidement à table parmi les filles. Oui, mais encore eût-il fallu avoir la sottise de les inventer et l'audace de les écrire. Encore eût-il fallu avoir le cœur assez solide pour qu'il ne se renversât point devant les pitoyables besognes imposé par l'actualité, par la vogue chaque jour, et une vision soudaine des heures perdues dans les salles de rédaction se dressa devant lui. Il se revit accoudé sur le tapis vert d'une table en quête de ses épreuves, alors que vers 3 heures du matin, semblables aux servantes de l'amour enfermées dans des salons munis de divans et de gaz, ses collègues donnassaient, s'étirant, bâillant, demandant l'heure, buvant et fumant, attendant le moment longtemps souhaité de cesser le métier et d'aller dormir. Ah, cette vie de fille résignée à obéir aux exigences de monsieur et à satisfaire aux caprices des abonnés et des passants l'avait révoltée. Puis il avait eu aussi des ambitions plus hautes. Il avait voulu être un artiste. L'était-il seulement? Avait-il fait œuvre de talent? S'était-il affirmé dans le monde des lettres? Avait-il dans la cohue joué des coudes? S'était-il enfin assis sur l'estrade, devant le public, le matant par sa hardiesse, ou l'apprivoisant par des bouffonneries sentimentales ou graves? Non. Il n'avait rien tenté, rien osé, rien fait. Il s'était trompé de voie. Il eût dû suivre la grande route, devenir tout comme un autre ouvrier ou commerçant. « Eh non !» s'écria-t-il. « N'ai jamais rien appris et je ne sais rien. » Et en effet, il était bachelier. Un état manuel, mais il eût fallu subir des années d'apprentissage. Un commerce quelconque, mais il ne connaissait ni la tenue des livres ni les affaires. Il n'avait appris ni l'anglais, ni l'allemand, rien des choses pratiques, rien. Est-ce qu'il était capable de donner de la toile, de ficeler un paquet, de cacheter une bouteille ou de planter un clou? Pouvait-il seulement, comme un ancien sergent, écrire des pages de bâtardes et de rondes ou comme un ex-brigadier, penser étrier des chevaux? Il avait su, jadis, un peu de latin et un peu de grec. Il savait maintenant un peu de français, et c'était tout. Et il reprochait à sa famille son instruction creuse, les dépenses inutiles du collège, les sacrifices qu'elle s'était résolument imposés pour le mettre à même de ne pouvoir jamais gagner son pain. Puis, et cela n'était pas la faute de sa famille, cette note passable, habituellement inscrite sur ses cahiers de classe, l'avait poursuivi pendant toute sa vie. Après l'avoir autrefois coté aux yeux des pions, elle le cotait maintenant aux yeux du monde. Il avait été sans interruption passable, passable dans ses devoirs, passable dans ses répétitions, passable dans ses livres. Et ce n'était pas tout. Dans son existence privée, dans son ménage auprès de sa femme, auprès de Jeanne, il s'était montré comme ni un amoureux, ni glacé, ni chaud, ni vaillant, ni lâche. Non, il avait été monsieur tout le monde, une personnalité insignifiante, un de ces pauvres gens qui n'ont même point cette consolation de pouvoir se plaindre d'une injustice dans leur destinée, puisqu'injustice suppose au moins un mérite connu, une force. Ainsi qu'un homme qui se réveille, il jeta les yeux autour de lui et la marche de ses pensées s'arrêta. Puis elles ébranlèrent à nouveau et la marée de ses embêtements s'accrut. Il aurait beau dire, il aurait eu tout de même de la déveine, car enfin il terminait et travaillait avant son mariage. Il donnait des promesses de talent pour quelques-uns. L'impuissance ne lui était radicalement venue qu'après sa rupture avec Berthe. C'était elle qui lui avait pour toujours effondré ses énergies et ses espoirs. La mesure était comble maintenant. Jeanne était partie. Et mentalement, il aperçut un concubinage disparaissant dans le lointain, bras dessous, se chauffant au soleil, uni contre les misères du sort, contre les maladies de l'âge. Ce collage qu'il avait péremptoirement repoussé lui apparut comme un havre, comme une sainte Périne, soignant les impotents et les infirmes. « J'aurais dû me mettre avec Jeanne, se dit-il. Ah, si elle revient !» Et il sourit tristement, sachant bien qu'elle se créerait une existence là-bas et que jamais plus sans doute il ne la reverrait. « Pauvre chérie !» murmura-t-il. « Elle est loin maintenant. » Et il s'oublia en elle, s'identifiant pour une seconde avec son sexe, cousant à Londres au milieu d'un atelier éclairé par des vitres troubles, sous un jour louche dans un boulevard de paroles inconnues. Et sans transition, rappelé à lui par sa pantoufle qui battait sur le plancher, il se retrouva tout abêti, rue Cambacérès, tandis que de bruyantes lamentations montaient de nouveau dans son âme, conduisant le deuil de cette vie, traversée d'amour incomprise, d'opiniâtres chagrins et de joie brève. Puis, comme pendant une messe funèbre, une voix se lève, douce et triste dans le silence de l'église, quand l'orgue s'est tu. Une voix s'élança plaintive dans l'anéantissement de son âme, implorant de vagues miséricordes, d'incertaines pitiés, couverte bientôt, comme par la reprise des grandes orgues, par la véhémence de la crise juponnière qui éclata, débridant les plaies, les ouvrant toutes larges, arrachant les pansements posés par Jeanne. C'était la fin. Les accidents tertiaires sortaient. Après le ressentiment de l'outrage subi, les postulations courroucées et les amers regrets des caresses absentes, après les souvenirs animés des époques lointaines et ces réveils aussitôt éteints des amours défuntes, après les sources convoitises des atmosphères féminines et les violentes séditions contre une existence murée, sans jour, sans intérêt, sans femme, la première période de la crise avait cessé. Alors plus de lancinantes angoisses, plus de fièvres chaudes, d'idées fixes, plus de folle défaillance et d'affreux sursauts, mais une sorte de langueur charmante comme celle d'une convalescence, un lent apaisement de pensée, une complète résignation, une pâle quiétude, une rêverie mélancolique et souriante, un sentiment consolé et tendre comme celui que l'on éprouve parfois le jour des morts devant la tombe d'un ami depuis longtemps close. Puis ces symptômes de la deuxième période avaient aussi disparu, et la maladie semblait usée, quand tout à coup, au reçu de la lettre de Jeanne, elle se déclarait encore en un brutal accès. Alors une abdication de soi-même, une détresse sans remède, un spleen sans recours, l'accablèrent. Il s'affaissa sous l'écroulement d'une vie qui, à peine reconstruite, s'abattait de nouveau, ensevelissant ses dernières espérances sous un bruyant monceau de dégâts et de ruines. Chapitre 13.
Cet escalier est bien misérable, pensa les abelots. Je comprends vraiment pas comment on ose habiter une maison d'aussi piètre mine. Oh, mille pardons, madame, fit-il subitement, et il s'effaça contre la muraille, laissant le passage libre à une femme qui descendait, escortée d'une portée de gosses, grognant, le nez plein, remuant des boîtes à l'aile et tapant comme des cymbales.
Enfin, m'y voici, soupira des abelots.
Il était arrivé devant une porte peinte en jaune, ornée au milieu d'un bouton de fer noir. Il chercha en vain la sonnette, alors il cogna avec la pomme de son parapluie. La porte bâilla et dans la pénombre, il aperçut une femme grasse et un chat rouge.
« Monsieur Cyprien Tibaille ? » demanda-t-il en saluant.
« Oh, c'est ici, monsieur. »
Des abelots déposa son parapluie dans le coin d'une porte, traversa une antichambre obscure, ouvrit une autre porte, et ébloui par le grand jour, il demeura, les yeux écarquillés, apercevant Cyprien, couché, les bras autour de la tête, sur l'oreiller, un bout de pipe fumant aux lèvres. Il lui toucha la main et déclara, en s'asseyant sur une chaise au pied du lit, qu'il espérait bien que la santé de son ami était toujours bonne. Cyprien le remercia de ses souhaits, ajouta qu'ils étaient malheureusement inexaucés, attendu qu'il souffrait d'une inflammation de la muqueuse du ventre. Monsieur des Abelots appartenait à cette race de gens qui proposent aussitôt les remèdes les plus divers aux personnes malades. Il conseilla donc au peintre les pilules et les perles formulées par tel ou tel docteur, les électuaires, les tisanes et les bois préconisés régulièrement dans les journaux aux annonces de la dernière page. « Rien de grave, du reste, ajouta-t-il d'un ton confiant.
« Non, non, rien de grave, j'ai même permission de me lever demain. »«
Alexandre ! » cria-t-il soudain, s'adressant au chat, qui, après avoir longuement flairé le chapeau de Desablo, entra dedans. Mais cet appel ne produisit aucun effet sur la bête, dont on ne voyait plus que l'arrière-train et la queue qui remuait droite et rayée de rouge. Desablo se leva, mit son chapeau à l'abri, et par amabilité, voulut caresser le chat, qui s'avança comme un crabe, marchant de côté, les oreilles à plat sur le crâne, les moustaches hérissées, la queue basse. « Il va vous griffer, » dit tranquillement Cyprien. Desablo se recula et vint s'asseoir, regrettant n'avoir pas gardé, comme arme de défense, son parapluie. Il y eut un instant de silence. Cyprien, très étonné de cette visite, regardait curieusement des abelots qui croisaient et décroisaient l'air absorbé ses jambes. « Vous avez déménagé ?» fit-il, laissant enfin ses jambes en place et relevant un peu la tête. Il considéra la pièce dans tous les sens, murmura « Oh, c'est très gentil, très clair !» Et après une pause « Vous travaillez toujours beaucoup ?» Beaucoup, et le peintre désigna du geste des aquarelles éparses sur une table.
Des abelots se leva, mit sur l'ordion et demanda s'il pouvait, sans indiscrétion, les regarder.
Mais comment donc, mais regardez-les tant qu'il vous fera plaisir, mon cher monsieur.
Des abelots recula, pris de nausée, devant ces aquarelles qui représentaient toute une gamme de maladies, de peaux, tout un clavier de boutons et de dartres. Il rejeta indigné ses planches et, dissimulant mal son dégoût, « Alors vous vous amusez à peindre des sujets pareils ?»« Oh, permettez, ce n'est nullement par plaisir que j'enlumine pour la chromo ces aquarelles. J'exécute simplement un travail commandé par un médecin. Je suis obligé d'aller à l'hôpital Saint-Louis, de m'installer dans les salles devant les sujets que l'on me désigne, de faire coller à la diète ceux qui refusent de se laisser peindre, et tout cela pour gagner 10 francs par planche. Il n'y a vraiment pas matière à s'amuser, comme vous semblez le croire. » Un repos suivit cette déclaration. Des abelots très pensifs roula son mouchoir et se le passa sans raison sous le nez.
« Bon, c'est toujours pas pour m'acheter de la peinture qu'il est venu, » songea le peintre.
La grosse femme qui avait ouvert la porte d'entrée arriva sur ses entrefaites et s'enfonça longuement dans un fauteuil. Des abelots devint plus gêné encore. Il regarda à la détour de la femme, n'osant l'examiner de face, louchant en dessous de son binocle par politesse. Elle lui parut par trop boulotte et par trop mûre. Ficelée avec cela comme un paquet, les joues ravitaillées avec du fard, les cheveux rongés par une raie à pellicule, les yeux pleins d'eau comme ceux d'une chienne, il lui sembla tenir de la garde-malade, de la portière et de la raccrocheuse. Elle est décidément ignoble, pensa-t-il. Cyprien s'impatienta de cet examen. Il dévisagea des abelots et lui dit « Mon cher monsieur, si vous avez quelque chose à me communiquer, il ne faudrait pas vous gêner, parce que Mélie est là. Elle est un peu curieuse, et il y a gros à parier que si je la priais de sortir, je serais obligé, après votre départ, de lui répéter notre conversation mot pour mot. Il vaudrait peut-être mieux, dès lors, oublier qu'elle est là, et causer tranquillement ensemble. » Cette explication ne diminua en rien l'embarras du visiteur, qui, pour se prêter une contenance, souffla sur les verres de son lorgnon et les frotta soigneusement avec son mouchoir. Le peintre se perdit en conjectures sur le motif de cette visite. Voulant rompre à tout prix le silence qui menaçait de se continuer, il demanda poliment des nouvelles de madame et de mademoiselle. Desablot se dérida visiblement. Il laissa son pince-nez et répondit avec empressement « Bon, Dieu merci, toute la famille est en bonne santé. Ma femme, vous la connaissez, à cheval au travail, une âme d'élite partageant son affection entre sa fille et moi. » Il s'interrompit. Le chat, brusquement sauté des genoux de Mélie, se livrait à de folles cavalcades, galopant sous les chaises, se fichant sous le dos et gigotant les quatre pattes en l'air, puis se relevant d'un tour de rein, cabriolant et sautant, l'air effaré sur tous les meubles. « C'est les puces !» dit sentencieusement Mélie. Desablot la regarda de travers et, rattrapant le fil de ses idées, il poursuivit « Oui, ma femme se porte comme un charme. Quant à la petite, elle est, comme vous le savez, d'une complexion délicate. Mais enfin, sa santé est aussi bonne que nous pouvons le désirer. Du reste, cet enfant-là donne bien de la satisfaction. C'est une nature droite, comme celle de la mère. Jamais de punition en classe, et toujours première. La maîtresse la cite ainsi qu'un exemple, et Monseigneur a bien voulu nous en faire compliment le mois dernier, quand il est venu dans le pensionnat pour donner la confirmation à de jeunes élèves. « Et à quoi que vous la destinez, votre demoiselle ?» hasarda Mélie d'un ton aimable.
Mais tais-toi, ajouta Cyprien, et empêche Alexandre de sauter comme il fait.
Mélie empoigna Alexandre, et tandis qu'elle le serrait contre elle, une lutte silencieuse s'engagea, traversée par les coups de queue saccadés du chat, tapant sourdement l'estomac de la femme.
Enfin, reprit Desablo, hésitant un peu, tout est pour le mieux, mais cependant, vous savez, le bonheur n'est jamais complet. Mais quand on est heureux d'un côté, on ne l'est pas de l'autre. Ainsi, la santé de cette pauvre Berthe, je puis bien vous le dire, nous inquiète beaucoup. Tous les malheurs qui lui sont arrivés, sa rupture avec André, tout cela, voyez-vous, agit sur le moral et par contre-coup sur le physique. Bref, ce qui est absolument péri dans la demeure. L'état de notre nièce ne laisse pas que de nous inspirer de sérieuses appréhensions.
Cyprien, très attentif, regarda fixement son visiteur qui reprit.
Oui, il faudrait beaucoup de ménagement et de l'air pur. Les médecins que nous avons consultés à ce sujet sont unanimes à prescrire un séjour à la campagne, des promenades dans les bois, de la tranquillité, aucune émotion et aucun tracas. Et il continua plus bas, après une pause.
Il est vraiment regrettable qu'André n'ait pas adhéré à la demande que je lui avais soumise dans ce sens par l'organe de maître Saparoi, notre notaire.
Ah ? Fit Cyprien.
Ben oui, ce refus est d'autant plus inexplicable, poursuivit Desablo qui s'animait, que c'était une occasion unique pour Berthe.
Pensez donc une maison à Viroflay, c'est-à-dire à quelques lieues de Paris, un jardin assez grand avec un potager, à 10 minutes d'une station, un train par demi-heure et tout cela pour 12 000 francs. Et puis enfin, en dehors même des avantages matériels qui seraient résultés de cette opération, il y avait des motifs qui primaient les autres, des considérations d'humanité qu'un homme de cœur ne pouvait rejeter.
Pardon, interrompit le peintre, mais je ne comprends pas bien l'histoire que vous me racontez. Voyons, vous voulez que Madame Berthe, votre nièce, achète une maison à Viroflay, celle que vous avez louée l'été dernier sans doute.
Desablo approuva du chef.
Bien. Et comme en qualité de femme mariée, Madame Berthe ne peut rien acheter sans l'autorisation de son mari, vous avez dépêché un notaire à André pour obtenir cette autorisation.
Desablo approuva encore.
Et André a refusé?
Desablo hocha silencieusement la tête.
Bon, j'y suis maintenant, si vous voulez continuer, je vous écoute.
Mais Desablo déclara qu'il n'avait pas à continuer. Il s'excusa même d'avoir ennuyé son ami par cette longue histoire, mais c'était plus fort que lui. La réponse d'André l'avait trop secoué. Il avait une barre dans l'estomac depuis qu'il l'avait apprise. Il aimait Berthe comme sa propre fille. Il l'avait élevée sans faire de différence entre elle et sa petite Justine. Et voilà que la pauvre enfant, après tous ses malheurs, maintenant que ses souffrances commençaient à s'assoupir dans la sereine société de la famille, recevait un nouveau coup.
Oh, on montre au pas de l'idée et de la tête, s'écria-t-il, que la religion d'André n'ait été surprise. Et il serait vraiment bien à souhaiter qu'un ami lui dessilla les yeux, lui fit comprendre le côté inhumain de sa conduite.
Autrement dit, murmura le peintre, vous me priez de parler à André de cette affaire.
Mais enfin, mon cher monsieur, pourquoi ne lui en parlez-vous pas vous-même ?
Parce que, répliqua Desablo, un peu rouge, j'ai craint que monsieur André eût des préventions contre moi, et puis j'ai eu peur, je l'avoue, de me laisser emporter dans la discussion et de l'envenimer.
Eh bien, mais madame Desablo n'a pas les mêmes raisons que vous de croire à la malveillance d'André. Pourquoi ne va-t-elle pas le voir ?
Desablo ne répondit pas tout d'abord à cette question. Il réfléchit, se disant
Ah, bien, par exemple, une femme honnête visitant des gaillards comme ceux-là. Et il frémit dans la pensée que si Madame Desableaux était venue à sa place chez Cyprien, elle aurait dû affronter le contact de cette grosse gueuse qui se prélassait avec son chat dans un fauteuil.
Bonne discrétion, obliger ma femme à ne pas se rendre chez un garçon qui ne m'est pas toujours seul chez lui, fit-il enfin.
Oh mon Dieu, reprit Cyprien, ce que je vous en dis n'est pas pour vous refuser le service que vous me demandez, bien que, par goût, je sois peu disposé à me laisser pincer les doigts entre les portes. Pourtant,
Desableaux ne le laissa pas achever. Il se leva et lui saisit les mains.
Je n'en entendrai pas moins de votre amitié, s'écria-t-il. Je le disais encore à ma femme hier, je suis sûr que M. Cyprien admettra la justesse de nos intentions. Et ma femme pensait comme moi, en me chargeant par exemple de vous adresser 1000 reproches, car vous êtes devenu d'un rare. Vous avez positivement oublié le chemin de notre domicile. Voyons, il faut venir nous voir, manger la soupe sans façon avec nous. Que diable! Ce n'est pas parce qu'André est fâché avec nous que vous devez épouser ces querelles. Vous savez, du reste, que ma femme vous aime beaucoup.
Je n'en ai jamais douté, répondit Cyprien. Eh bien alors, c'est entendu? Que je suis bête, fit-il tout à coup. Oh, j'oubliais avec tout cela l'objet de ma visite. Nous avons toujours le portrait du père à rentoiler. Vous aviez bien voulu nous promettre avant votre départ pour la campagne de vous occuper vous-même.
Oui, oui, répliqua Cyprien très froid, je passerai le prendre un de ces jours.
C'est cela, s'écria Desableaux. Venez quand vous voudrez, nous dînons à 6 heures.
Voilà qui est convenu.
Tiens, votre chat perd ses poils,
dit-il après un silence, regardant cet animal qui faisait maintenant le dos de chameau et se frottait lentement contre le bas de ses culottes.
Bon, c'est rien, monsieur, jeta Mélie, qui apporta une brosse de chien-dent.
Mais Desableaux se défendit. Jamais il n'accepterait que madame se donnât cette peine. Il consentit cependant, bousculé par la grosse femme, à mettre un pied sur une chaise et à se laisser brosser son pantalon à tour de bras.
« Cyprien !» cria Mélie agenouillée devant la chaise. « Il est temps de te frictionner !»«
Bon !» grogna le peintre, qui étala sur un bout de flanelle de la gélatine de Podel d'or.
Il y eut un nouvel instant de silence, pendant lequel une odeur de camphre monta doucement du ventre de Cyprien, se développant peu à peu dans la pièce, tandis que le bruit aigre du chien-dent ratissant le drap s'entendait seul.
« Merci mille fois, madame, » dit Desableaux à Mélie, en se remettant sur ses jambes. Puis il tira sa montre.
« Diable, oh, je vais arriver en retard à mon bureau. Allons, meilleure santé !»
Et il serra la main de Cyprien. Il ne partit pas, cependant, devenu très indécis, se demandant s'il devait rappeler au peintre l'intervention réclamée entre André et Berthe, mais il jugea plus digne de reparler du tableau, laissant entendre obscurément qu'il paierait au besoin les frais.
« Alors, une dernière fois, adieu et bonne santé !»
Et il ajouta, en serrant encore la main du peintre, pensant faire ainsi une discrète allusion à tous les motifs de sa visite,
« Je puis, n'est-ce pas, dire à ma femme qu'elle compte sur vous ?»
Cyprien remua vaguement la tête, et précédé par Mélie et par le chat, Desableaux quitta, sur un dernier regard, la place, et aussitôt qu'il fut arrivé dans la rue, il ricana, pensant que tout de même un honnête homme serait bien malheureux s'il lui fallait vivre de la sorte avec une fille.
Le restant de tout le monde, une créature, une boue et un égoutier. Et un bohème de Cyprien, mâcha-t-il.
Oui, qui se ressemblent s'assemblent, et il est bien assorti avec André.
T'es égal, il faut avouer que c'est une pénible tâche que d'aller réclamer l'appui des gens pareils.
Et c'est qu'il faut user de diplomatie avec eux, mettre des mitaines, des gants. Ah, ce pauvre Vigeois, en nous léguant sa fille, peut se vanter qu'il nous aura infligé de dures épreuves. Et il marcha, plus furieux, déblatérant contre les ménages interlopes. Oblidération du sens moral. Voilà la seule explication qu'on puisse donner de ces existences anormales, pensa-t-il. Et soulagé par ses réflexions, il entra dans son bureau où il secoua furieusement deux employés célibataires qui arrivaient en retard, déclarant qu'ils ne pouvaient invoquer comme excuse des devoirs de famille, puisqu'ils étaient garçons l'un et l'autre, et que l'administration n'avait pas à s'accepter, pour des motifs qu'elle ne pourrait sans doute pas décemment connaître, des retards préjudiciables à ses intérêts. Et tandis que les employés supportaient patiemment le galop de leur chef, Cyprien, ne doutant point de la déplorable impression que Mélie avait laissée à des abelots, se prit à rire dans sa barbe, caressant le chat pelotonné sur le lit, en boule. « Alexandre, dit Barderouille, fit-il, le monsieur à favori que tu viens de voir est un homme grave, un homme relié, marié, père d'une fille, et récemment promu au grade disputé de sous-chef. Il apparaît comme un homme considérable aux yeux des petits commerçants et des rentiers. Eh bien, ce fonctionnaire a dû emporter de toi une bien triste opinion, car tu t'es malhonnêtement conduit. Tu es entré dans son chapeau, et tu as couvert sa jambe gauche de poils. Il ne faut pas cependant que cela te chagrine, mon pauvre Mimi, car vois-tu, Monsieur des Ablots a très certainement une aussi mauvaise opinion de ton père, Cyprien, qui te tient présentement les pattes pour que tu ne te sauves pas. Oui, oui, mais ce monsieur nous méprise, moi et cette brave Mélie. Pourquoi? Ah, dame, ça c'est moins facile à t'expliquer. Car ta maman Mélie, prise de pitié, t'a fait arracher d'avance par le coupeur du Pont-Neuf les germes de certaines idées que tu aurais pu t'enraciner dans l'âme. On a tari tous tes instincts de vagabondage amoureux, tous tes futurs désirs de pousser des cris déchirants le long des toits. On a eu tort, car t'es une bête surhumaine et monstrueuse, une bête sur laquelle on a violé les lois les plus saines de la nature, en te débarrassant de la douleur morale, dès le principe. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pardonne cette digression, ne me mords pas, ou je te claque et écoute. La société, vois-tu, Minet, a décidé dans un jour de berlu, on ne sait plus quand, tant ça se perd dans la nuit des siècles, que tout homme qui voudrait habiter avec une femme dans la même chambre, dans le même lit, devrait passer auparavant devant un autre homme qui les interrogerait, après qu'on lui aurait remis une ceinture de cotonnade autour des reins. Cette opération s'appelle le mariage, mon chat. C'est l'honnêteté, c'est le respect de tout un pays, de tout un monde. C'est la protection assurée, où qu'on se trouve, des magistrats et des gendarmes. Eh bien, ton papa Cyprien et ta maman Mélie n'ont pas défilé devant la fameuse écharpe dont je t'ai parlé. Ils vivent simplement ensemble, comme toi, tu aurais pu le faire avec une chatte, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation d'un deuxième chat. C'est-à-dire que, quoi qu'ils fassent, ils seront constamment méprisés, constamment honnis. Et il n'y a rien à faire à cela. Il n'y a pas de subterfuge à inventer, ajouta Cyprien avec une pointe de mélancolie. Quand j'achèterai une alliance à ta maman, quand je lui jetterai de la soie sur le dos et sur la tête des chapeaux à plumes, ça ne nous empêcherait pas d'avoir la tournure spéciale aux gens collés. Du reste, si tu veux t'en assurer, tu n'as qu'à nous regarder par la fenêtre quand nous sortons ensemble. Ça, faut être juste, c'est un beau spectacle. Mélie cahote en marchant et ne peut me suivre. Elle geint, se mouche, s'essuie, crie après moi, m'appelle tout haut dans la rue, tandis qu'à 20 pas en avant, je fends l'air de mes longues jambes. Voyons, c'est cela qui peut nous procurer une dégaine honorable, gens mariés? Non, n'est-ce pas? Ah, si nous étions des ouvriers, si Mélie portait de vieilles camisoles et des bonnets mous, si moi j'étais vêtu d'une blouse et coiffé d'une casquette, je ne dis pas. Nous pourrions sans doute donner le change, puisque tout le monde a l'air de concubin dans le peuple. Alexandre s'agita et miaula désespérément. Alors je vais abréger, dit Cyprien, car je commence à croire que ces explications t'intéressent fort peu. Au fait, les 2 sous de foie que tu manges par jour ne sont ni meilleurs ni pires, que ce soit Mélie, fille au lanier, ou Mélie, épouse de Cyprien Tibaille, qui te les découpe et te les pétrisse dans une pâte de pain. Mais enfin, tous ces détails étaient nécessaires pour te faire bien comprendre les nausées d'âme que M. Desablots a endurées à la vue de nos 3 personnes. Le chat, impatienté par ce discours, roula des yeux noirs, à peine cerclés de jaune, au bord, et il se tordit plus furieusement entre les mains du peintre. « Laisse-le donc, jeta Mélie. Est-ce que cet animal peut comprendre toutes les histoires que tu lui racontes ?»« Ta mère a raison, déclara Cyprien. Va, mon fils, tu dois être édifié maintenant. » Et il lâcha Alexandre qui se précipita au bas du lit et se secoua vivement sur le parquet dans une nuée de poils rouges. « Mon Dieu, que tu es bête, mon vieux Cyprien !» soupira Mélie. « Oh, tes aperçus sont parfois justes !» répliqua le peintre. Leurs entretiens finissaient souvent de la sorte. Ils formaient à eux deux un concubinage modèle, basé sur une réciproque indulgence, une union où les sens éreintés, organisée par une femme qui n'était plus jeune et qui n'avait au travers de noces subies comme on supporte les fatigues d'un périlleux métier, poursuivi qu'une idée, qu'un but, découvrir un homme qui consentirait à la tirer de l'eau et à la mettre à sec sur une berge. Elle flaira en Cyprien, sauveteur. Elle saisit que celui-là n'avait plus ses préoccupations de jeunes hommes qui cherche une maîtresse avenante ou jolie pour la montrer aux autres. Sa grosse taille, sa tournure populacière, ses quelques penchants à lever le coude et à siroter de petits vermouths entre les repas, la rendaient impossible à placer chez ces gens qui, épris de distinction et possédés par un idéal de femme frêle, sans infirmité de nature, éprouvent le besoin de s'enquérir du passé de leur maîtresse, l'oblige à leur dégoiser des blagues pour se monter à eux-mêmes le coup et l'abandonne en fin de compte parce qu'ils en ont rencontré une autre dont la robe est plus élégante et le teint mieux fait. Cyprien lui apparut comme un galopin usé avant l'âge, comme un malade qui désirait seulement dans le lit être bordé, et elle s'attacha à lui, rêvant de devenir simplement sa bonne, mais une bonne avec qui l'on cause familièrement et qui l'on envoie de temps à autre par amitié de petites tapes sur le derrière. Puis, à ce bon enfant, cette douceur d'une fille qui a été constamment dupée par les hommes sans leur en garder pour cela rancune, une idée bien peuple se joignait, vigoureusement reintée et pétant d'embonpoint. Mélie ressentait une certaine compassion pour la maigreur délicate du peintre. « Faudra que je l'engraisse, » se disait-elle souvent. Et elle s'inquiétait de lui comme d'un marmot à qui l'on essuie le front quand il a couru. Elle vérifiait, lorsqu'il s'apprêtait à partir, ses vêtements, lui fourrant des foulards dans les poches, le forçant à se déshabiller des pieds à la tête quand il revenait mouillé par les jours de pluie, se couchant avant lui l'hiver pour qu'il s'étendît sur une plage chaude. Ils s'étaient croisés un soir qu'elle bâillait aux corneilles sur un pont.
accostée sous le plus futile des prétextes, elle invita le peintre à passer son chemin. Cyprien avait alors parlé de la fraternité des âmes, mis le bras de la femme sous le sien, et malgré ses refus, il l'avait emmenée, l'éblouissant par d'inintelligibles phrases, lui procurant cette certitude qu'elle était remarquée par un monsieur qui avait reçu de l'instruction. Elle fut enchantée du reste de l'hospitalité du peintre, et ce furent ses gentillesses de calicot et de perruquier dont l'effet est toujours sûr. Cyprien y ajouta encore un sans-gêne gracieux qui combla Desmélie, déjà enchantée de ses bonnes façons. Égayée par des grogues fortement épicés, elle s'apitoya, maternelle, sur les vêtements décousus du peintre, et leur opposa, çà et là, quelques reprises, quelques points, puis satisfaite du peu d'exigence et de la générosité de Cyprien, elle revint d'elle-même plusieurs fois, entrant avec l'air humble d'un chien qui s'attend à être chassé, mais le peintre la laissa rôder, bienveillant, où qu'elle voulut, songeant à l'avenir de sa garde-robe. Leur liaison continuait ainsi, très lénitive et très bénigne, lorsqu'un jour, Cyprien se coucha malade, souffrant de maux d'oreille et de clous. Alors elle s'installa près du lit, prépara le pot-bouille pour qu'il n'eût pas à sortir. Elle le soigna avec sollicitude, le veilla la nuit, le dorlotant, lui mettant un moine aux pieds, se relevant pour le faire boire. Lui fut ébahi. Il ne comptait plus depuis longtemps sur une affection quelconque, sur une pitié. Il s'attendrit sur ce dévouement qu'on lui offrait, gêné malgré tout par le bon enfant de cette femme qui voulut, en dépit de ses protestations, s'occuper elle-même de toutes les hontes, de toutes les abjections d'une maladie. Mais elle riait, lui disant, lorsqu'il se fâchait presque, la suppliant de ne pas accomplir de répugnantes besognes, « Allô, mon bibi, mais c'est l'affaire des femmes, ça !» Et il l'embrassait, tout ému. Et la grosse femme riait plus fort, ravie d'être ainsi embrassée, sans saleté, contrairement aux habitudes. Elle trima furieusement, du reste, car en sus de la cuisine et des courses, elle dut balayer le logis, découper les vieux rideaux de mousseline pour les cataplasmes, se battre avec Cyprien que l'invasion des médicaments outrait. Puis ce fut toute la série des purges qui défila, des limonades gazeuses qui emplissaient Cyprien de vent sans rien produire, des eaux de Pulna, aigres et doucereuses, qui le rendaient par le haut des sels de Sedlitz, qui l'échauffaient cruellement, et ce fut enfin l'abominable ricin que le docteur prescrivit en dernier ressort. Alors Cyprien jeta des cris de merlusine. L'odeur seule de cette drogue lui retournait l'estomac. Mélie dut, un matin, après avoir soigneusement battu l'huile dans du café tiède, enfourner le tout dans la bouche du peintre, qu'elle effara en le réveillant en sursaut par des cris de pie. Il jura, sacra comme un bouvier, l'interpella violemment, l'envoya à tous les diables, puis il avoua qu'elle avait eu raison d'agir ainsi, et il consentit, résigné, souriant aux joues gonflées et aux lèvres en rosette de Mélie, soufflant sur le bol pour le refroidir, à s'abreuver de bouillon, aux termes, à s'ingurgiter, jusqu'à plus soif des potées d'eau verte. Tant qu'il ne put se lever, elle demeura près de lui, du matin au soir, causant, ravaudant, lisant des livraisons illustrées à deux sous, superposant les histoires jadis clabaudées dans sa propre maison sur tous les cancans débités dans celle du peintre. Son zèle ne s'amortissait pas, et sa vaillance et sa belle humeur réconfortaient le peintre qui s'épeurait au plus léger mal et se croyait perdu. « Quand on veut quelque chose, on le veut, » disait-elle. « Moi, je serais paralysée, que je soulèverais quand même mes jambes avec ma tête. » Et elle se tapait carrément sur le front avec son dé.
dure pour elle-même, ayant dans le sang du salpêtre qui lui secouait la graisse, elle était cependant molle pour les autres, émue par leurs moindres bobos, par leurs moindres peines. Lorsque les maux d'oreille de Cyprien s'alentirent et que ses clous percèrent, elle continua néanmoins à le bercer. Mais vers les midis, elle s'absenta chaque jour régulièrement pendant 2 heures. Le peintre s'alarma. À la voir si casanière et si placide, il n'avait plus songé combien l'existence de cette femme était problématique. Mélie acceptait bien sa part des repas qu'elle cuisinait chez lui, mais enfin, il y avait le loyer, l'entretien, le blanchissage. Et où se procurait-elle l'argent nécessaire pour parer à ses dépenses? Elle travaillait souvent à des ouvrages de passementerie, disposant sur un morceau de bois hérissé de pointes qui formait un dessin de la ganse qu'elle cousait et piquait de petites perles en verre noir, les recueillit dans son tablier et collait par de la salive sur le pouce de sa main gauche. Mais outre qu'elle n'avait plus les yeux assez vifs pour enfiler rapidement ses perles, trouées à chaque bout, d'un coup d'aiguille, ce travail était trop mal rémunéré pour qu'il pût suffire aux besoins d'une femme. 32 sous en bûchant de 7 heures du matin à minuit, c'était ce qu'elle pouvait en se hâtant gagner. Il devait donc exister 1 ou 2 messieurs qui aidaient la pauvre fille. Ses absences se trouvaient par cela même justifiées. Et pourtant, quand il examinait Mélie, Cyprien s'étonnait. C'est qu'elle n'était ni appétissante ni libertine. Il faudrait supposer, se dit-il, qu'il est dans Paris 1 ou 2 impotents de mon espèce, des gens fanés et doux, tenant à une maîtresse pour des motifs différents de ceux qui déterminent l'humanité depuis des siècles. Et il se sentait d'une certaine colère, une certaine jalousie pour les soins de garde-malade qu'elle allait sans doute prodiguer à de vieux amants. Son dépit amoureux ressemblait à cette sorte de rancune qui prend un malade dans un hôpital lorsqu'il voit le médecin l'examiner à peine et se préoccuper longuement des autres. Il ne pouvait reprocher à Mélie cependant de ne pas lui donner la préférence puisqu'elle ne le quittait guère et témoignait d'ailleurs peu d'empressement à sortir. Elle examinait la pendule en fronçant le nez, attendant la dernière minute, se lissant les cheveux de mauvaise grâce, murmurant tout en arrangeant ses gants percés au bout des doigts « Oh, ils sont bien bons !» Puis elle baissait sa voilette et, jetant un dernier coup d'œil sur la chaumière, couvrait le feu de cendre, préparait tout pour que Cyprien ne souffrît pas de son absence. Habitué au va-et-vient d'une jupe s'accrochant dans les pieds de chaise, aux encouragements jetés à la maladie, à l'échange des propos dont l'insignifiance disparaît pour les gens souffrants, Cyprien se jugeait horriblement malheureux lorsqu'il était seul. Sa chambre devenait morne, il regardait à son tour, attristé, les aiguilles de la pendule, écoutant le tic-tac du balancier pour s'assurer qu'il n'arrêtait point. « Comme le temps est long, disait-il. » Et il éprouvait une réelle joie lorsqu'au bout de 2 heures, il entendait le pas d'éléphant de Mélie ébranler les marches. Les sorties mesurées de cette femme continuèrent sans qu'elle les expliquât et sans qu'il eût le courage de l'interroger. Une sourde inquiétude le tortura à la longue pourtant. Il craignit des exigences de la part des personnes qu'elle allait voir. Il appréhenda une rupture imposée, un abandon. L'idée qu'il pourrait rester privé de soins maintenant l'affola. Il se vit seul pendant la nuit, s'agitant, battu par la fièvre, excédé par des cauchemars, suant sur son traversin, attendant l'arrivée du jour comme une délivrance. Il ruminait ses pensées dans ces états de vague somnolence où l'esprit engourdi continue néanmoins sa course. Une recrudescence de maladie acheva de l'atterrer. Alors, tout endolori, ne disant plus rien, il songea longuement aux épouvantes d'une catastrophe, aux agonies solitaires, aux morts lamentables des galeuses et des parias. Cette perspective de crever misérablement dans une chambre, la porte laissée entr'ouverte par la grande garde partie, tandis que les locataires passent en chantonnant dans l'escalier, s'implanta, poussé dans son cerveau, rivé par les souffrances qui l'assaillaient. Une peur terrible, une de ces paniques qu'on ne raisonne pas, le saisit. Il claquait les dents sous ses couvertures. Il fut sur le point de supplier Mélie ce jour-là de ne pas descendre. Puis il n'osa. Une perception brusque de sa situation lui apparut. Ses rentes mangées par les femmes n'étaient plus, et les quelques bribes échappées à ses défaites allaient disparaître, emportées par le courant des notes de médecine et de pharmacie. Fallait-il qu'il eût été niais pour s'être ainsi laissé gruger par des coquines qui se fichaient de lui? C'était comme toujours les bonnes filles qui payaient pour les mauvaises. Mélie était venue trop tard. Soudain, la pendule tintant coupa ses réflexions. Il regarda Mélie, se répétant « L'heure est arrivée, elle va déguerpir. » Elle aussi le regarda, et effrayée par la détresse qu'elle lisait dans ses yeux, elle lui caressa le front avec sa main, lui porta de la tisane à boire et lui essuya la bouche. « Voyons, qu'est-ce que tu as, mon gros ? » fit-elle. Il ne répondait pas. « Tu es mal ou ça, dis ?» Il murmura, « Oh, j'ai un peu de fièvre. » Et tristement, il se remit à examiner la pendule. Alors Mélie l'embrassa, un peu rouge, et elle reprit son travail, laissant s'écouler tranquillement les heures. Du coup, il fut subjugué. Ce simple incident décida de son sort. Ses derniers combats cessèrent. Il en venait à craindre maintenant que Mélie refusât le concubinage. Par pudeur, il résolut d'attendre qu'il fût complètement rétabli pour lui soumettre ses propositions. « Comme cela, je n'aurais pas l'air d'implorer une grâce, » se dit-il. Très guilleret et très bien portant, un soir, il tira sur sa pipe, lâcha une énorme bouffée et, un peu gêné, il s'expliqua, trouvant cela plus facile, sur un mode tout à la fois drôlatique et solennel. « Nous ne sommes plus jeunes, ma vieille branche, et le temps se gâte. Le moment me semble venu de jouer les Paul et les Virginie qui se fourrent sous le même jupon par les temps de pluie. T'es grosse et je suis maigre. T'es vaillante et moi je canne. » Réunissant ces qualités et nous complétant l'un par l'autre, nous aurons au moins quelques chances de résister aux tourmentes des événements. Tu dois en avoir assez de passer toujours de la contrebande. Et puis c'est dangereux à la fin, car les douaniers demeurent. Ces argousins sont là. Quant à moi, la vie de garçon m'embête. À être toujours seul, je me consterne, je me ronge. Pour tout dire, je suis là et les latrines de mon âme sont pleines. Voyons, ça ne serait pas raisonnable de venir boulotter et de coucher ici, d'être comme mari et femme avec la chance en plus de ne pas procréer d'enfants, hein? Qu'en dis-tu? Si le collage te plaît, vas-y, allez, tape-moi dans la main, c'est fait. » Elle accepta d'emblée. Le rêve de sa vie mûre se réalisait. Elle baisa Cyprien, le remerciant de sa bonté, disant qu'il verrait qu'elle n'était pas méchante et qu'elle tâcherait de lui rendre la vie très douce. « Je le sais bien, ma pauvre Mélie, » répliqua le peintre qui s'émouvait. puis il reprit son calme et parla de l'avenir. Il ne dissimula pas à Amélie que leur existence serait chétive, qu'ils devraient vivre ainsi que des ouvriers, mais elle haussa les épaules, déclarant qu'elle n'avait jamais eu l'habitude de vivre comme une princesse, que le bien-être lui importait peu, et qu'avec de l'ordre, elle se chargeait bien d'ailleurs de joindre les deux bouts. Et leur union commença, sans ces troubles qui agitent des gens plus jeunes. Ils ajustèrent leurs défauts pour les emboîter sans qu'ils se heurtassent. La grosse femme garda la maison, laissant Cybrien badauder au dehors, s'inquiétant à peine de ses absences, prête même à lui pardonner quelques frasques comme on accepte de temps à autre une sottise sans importance d'un galopin. « La seule chose que j'exige, fit-elle un jour, c'est de ne pas les embrasser. » Et en effet, tout le reste ne tirait pas pour elle à conséquence. Retirée de l'amour, du monde, sachant par expérience combien est peu de choses pour des gens vraiment usés le commerce charnel, elle comprenait encore l'entraînement irréfléchi d'un soir, l'acte brutal aussitôt regretté, mais elle s'insurgeait à l'idée que la première venue pourrait obtenir de son homme, comme elle, ce qu'elle considérait ainsi qu'un témoignage de bonne affection, un baiser franchement donné. Cyprien lui promit tout ce qu'elle voulut. Il sortit et rentra à sa guise, et bientôt, chacun se désintéressant de son sexe, une sincère camaraderie s'établit entre eux. Cyprien pouvait bien déblatérer sur les vices des femmes, lâcher tout ce qui lui traversait la tête, sans que Mélie se froissât jamais. Elle le laissait parler, souriant, benoîte, disant simplement parfois, de même qu'après le départ de Desablo, « Mon Dieu, mon vieux Cybrien, mais que tu es bête !»